Rossi Bologna.
Bonjour et bienvenue dans Le Peuple Lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà être écrivain c'est pas facile, être juif au XXe siècle c'est pas folichon non plus, mais alors être écrivain juif au XXe siècle c'est le creuset, sous haute pression, de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les champs les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. En voiture, c'est parti ! Aujourd'hui, il s'agit de Simone Veil, avec un W comme work. Elle s'est particulièrement intéressée à la question du travail. Ne la confondez pas avec son homonyme Simone Veil, V. Toutes les deux sont des philosophes françaises d'origine juive, victimes du nazisme, humanistes et militantes. Mais les ressemblances s'arrêtent là. La Simone qui nous intéresse est née en 1909 à Paris. Elle mourra en Angleterre en 1943. Entre les deux, elle va apporter au marxisme une contribution originale, la philosophie participative. Sur le plan théorique, elle est difficile à situer. Comme son professeur Alain, elle rejette les systèmes. Wikipédia la situe dans l'anarchisme chrétien, bien qu'elle soit née dans une famille juive agnostique, vous aurez compris qu'elle ne craint pas les paradoxes. Et les premiers de tous. Elle explique le mysticisme avec clarté et met son éducation bourgeoise au service du travail à la chaîne. Je serais tentée de dire, elle ne veut pas expliquer, raconter, comprendre, pas même changer le monde. Elle veut le vivre. Au moment où les marxistes pensent la condition ouvrière, la transforment radicalement, en font la base d'une dictature prolétarienne, Simone Veil veut juste, d'abord, la vivre. W comme work, disions-nous. Son intérêt pour la question du travail a été une porte d'entrée vers des sujets variés. La liberté, la dignité, la science. Elle refuse la vision naïve d'une liberté purement oisive et la cherche au contraire dans la maîtrise des éléments. Pour elle, la liberté ne se réduit que si l'on n'en fait pas usage. La liberté est donc l'une des formes du travail, et le travail, autonome, conscient, réfléchi, le travail qui crée, est un exercice de liberté. Elle n'était pas prédestinée à travailler à l'usine. Elle reçoit, comme son frère, le mathématicien André Veil, une éducation classique. Père chirurgien, première de la classe, lycée Fénelon, elle écrit ses premiers textes à 11 ans, révélation mystique, bac à 16 ans, Hippocagne à Henri IV. On la voit, seule fille, bras croisés, un peu moqueuse, au milieu des garçons en costume trois pièces, des photos de classe de cette époque. Comme beaucoup, elle considère que les cours d'Alain ont changé sa vie. Il écrira dans son bulletin « Excellent élève ». Force d'esprit peu commune, ample culture, réussira brillamment si elle ne s'engage pas dans des chemins obscurs. Dans tous les cas, sera remarquée. Alors, après André Mauroy, Simone Veil est déjà la deuxième élève du philosophe Alain qui est cité dans Le Peuple Lu. Raymond Aron, Georges Coguilhem, Julien Gracq, dans une moindre mesure Jean-Paul Sartre et Paul Nizan, ont tous été formés par ce maître. Si on juge de la qualité d'un professeur à celle de ses élèves, il est donc temps de dire un mot sur Alain. Laïque, républicain radical de gauche, on le connaît surtout aujourd'hui pour ses propos. Il en a écrit plusieurs milliers. Il a un style d'oiseau de proie. Il vise une observation, concrète, souvent même triviale, d'un lieu commun dont on a tous l'expérience. Il le saisit dans ses serres et il lui fait prendre de la hauteur. Il use volontiers de paradoxes et d'un style très bref, lapidaire, qui fait l'économie des mots de liaison pour aller droit au cœur de la pensée. Pourquoi cette parenthèse sur Alain ? C'est qu'on sent son influence sur le style et sur l'œuvre de Simone Veil. La plume, déjà, très littéraire, très imagée, avec par exemple une métaphore chère à Alain qui revient souvent, celle du bateau, ballotté par des éléments aveugles, mais auquel la main de l'homme imprime un cap et une direction. Comparé parfois au destin, parfois à la liberté, il figure l'homme, en proie à la nature aveugle, mais qui s'y trace par sa volonté une route, soumise aux aléas et aux naufrages, mais où se lie la pensée et le travail humain. Sur l'œuvre aussi. Alain est connu pour les propos, format court, qui part de l'expérience concrète, et donc pour son refus du dogmatisme et du systématisme. Il a recommandé à Mauroy de travailler dans l'usine de son père avant de devenir écrivain, et a sans doute influencé Simone Veil dans son choix de l'usine comme terrain d'observation participante, pour connaître des facettes du monde qui lui auraient été sans cela inaccessibles et cachées. C'est aussi pour cette raison que la pause musicale aujourd'hui est issue des temps modernes de Charlie Chaplin, vision comique mais pas si fausse de l'usine, auteur du fordisme et du taylorisme.
C'è la pozza di la tua. C'è notre sole mine, c'è notre sole consigne. Je laisse trop vite, c'è la pozza di la tua. Tu vas à l'autre monde. Les anges si catonta. Tra la 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 la.
Cette vie de l'usine déshumanisante, monotone, Simone Veil l'a connue et en a tiré le journal d'usine. Mais alors, au sujet de Simone Veil, je suis partagée. Elle a fait le choix, très courageux, de partager la vie des esclaves du XXe siècle, des forçats de l'usine, et elle en est morte à 35 ans. L'engagement est admirable. Mais a-t-elle contribué à changer leur vie pour autant? Peut-être pas du tout, peut-être plus que les révolutionnaires armés. Un épisode peu connu de sa vie, c'est que dans les années 30, elle a reçu chez ses parents, en France donc, elle a reçu Trotsky en exil et qu'elle a échangé avec lui des propos qu'elle a ensuite elle-même notés, qui ont fait dire à Sedova, la femme de Trotsky, cette petite qui tient tête à Trotsky. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode du Peuple lu. Parce que finalement, tous ces engagements politiques, cet engagement humain, cet engagement social de Simone Veil se retrouvent dans un petit texte de jeunesse qui s'appelle « Née pour la liberté » qu'elle n'a elle-même pas pu faire publier de son vivant. Donc un texte posthume qui commence ainsi. « Née pour la liberté ». Et pourtant, rien au monde ne peut empêcher l'homme de se sentir né pour la liberté. Jamais, quoi qu'il advienne, il ne peut accepter la servitude. Car il pense. Il n'a jamais cessé de rêver une liberté sans limite. soit comme un bonheur passé dont un châtiment l'aurait privé, soit comme un bonheur à venir, qui lui serait dû par une sorte de pacte avec une providence mystérieuse. Le communisme imaginé par Marx est la forme la plus récente de ce rêve. Ce rêve est toujours demeuré vain, comme tous les rêves, ou s'il a pu consoler, ce n'est que comme un opium. Il est temps de renoncer à rêver la liberté et de se décider à la concevoir. C'est la liberté parfaite qu'il faut s'efforcer de se représenter clairement, non pas dans l'espoir d'y atteindre, mais dans l'espoir d'atteindre une liberté moins imparfaite que n'est notre condition actuelle, car le meilleur n'est concevable que par le parfait. On ne peut se diriger que vers un idéal. L'idéal est tout aussi irréalisable que le rêve, mais à la différence du rêve, il a rapport à la réalité. Il permet, à titre de limite, de ranger des situations ou réelles ou réalisables dans l'ordre de la moindre à la plus haute valeur. La liberté parfaite ne peut pas être conçue comme consistant simplement dans la disparition de cette nécessité dont nous subissons perpétuellement la pression. Tant que l'homme vivra, c'est-à-dire tant qu'il constituera un infime fragment de cet univers impitoyable, la pression de la nécessité ne se relâchera jamais un seul instant. Un état de choses où l'homme aurait autant de jouissance et aussi peu de fatigue qu'il lui plairait ne peut pas trouver place, sinon par fiction, dans le monde où nous vivons. La nature est, il est vrai, plus clémente ou plus sévère aux besoins humains selon les climats et peut-être selon les époques. Mais attendre l'invention miraculeuse qui la rendrait clémente partout et une fois pour toutes, c'est à peu près aussi raisonnable que les espérances attachées autrefois à la date de l'an 1000. Au reste, si on examine cette fiction de près, il n'apparaît même pas qu'elle vaille un regret. Il suffit de tenir compte de la faiblesse humaine pour comprendre qu'une vie d'où la notion même du travail aurait à peu près disparu serait livrée aux passions et peut-être à la folie. Il n'y a pas de maîtrise de soi sans discipline, et il n'y a pas d'autre source de discipline pour l'homme que l'effort demandé par les obstacles extérieurs. Un peuple d'oisif pourrait bien s'amuser à se donner des obstacles, s'exercer aux sciences, aux arts, aux jeux, mais les efforts qui procèdent de la seule fantaisie ne constituent pas pour l'homme un moyen de nominer ses propres fantaisies. Ce sont les obstacles auxquels on se heurte et qu'il faut surmonter qui fournissent l'occasion de se vaincre soi-même. Même les activités en apparence les plus libres, sciences, arts, sports, n'ont de valeur qu'autant qu'elles imitent l'exactitude, la rigueur, le scrupule propre aux travaux, et même les exagèrent. Sans le modèle que leur fournissent, sans le savoir, le laboureur, le forgeron, le marin qui travaille comme il faut, pour employer cette expression d'une ambiguïté admirable, elles sombreraient dans le pur arbitraire. La seule liberté qu'on puisse attribuer à l'âge d'or, c'est celle dont jouiraient les petits-enfants si les parents ne leur imposaient pas de règles. Elle n'est en réalité qu'une soumission inconditionnée aux caprices. Le corps humain ne peut en aucun cas cesser de dépendre du puissant univers dans lequel il est pris. Quand même l'homme cesserait d'être soumis aux choses et aux autres hommes par les besoins et les dangers, il ne leur serait que plus complètement livré par les émotions qu'il saisirait continuellement aux entrailles et dont aucune activité régulière ne le défendrait plus. Si l'on devait entendre par liberté la sainte absence de toute nécessité, ce mot serait vide de toute signification concrète, mais il ne représenterait pas alors pour nous ce dont la privation ôte à la vie sa valeur. Alors vous m'excuserez pour la longueur de la citation, mais c'est très difficile de couper Simone Veil, tant chaque phrase s'enchaîne à la précédente, et c'est cette philosophie au scalpel, cette philosophie d'oiseau de proie qu'elle doit sans doute à son maître Alain, qui va partir d'observations très concrètes, de phrases souvent courtes, ou beaucoup de points-virgules par exemple, et des éléments mais qui sont tissés ensemble dans une chaîne qu'on ne peut que rejeter en bloc ou adopter en bloc. Aujourd'hui, pour parler de Simone Veil W, nous recevons Ossine Rally, agrégée de philosophie, spécialiste de Foucault et de Hayek. Bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir ici et de parler de cet auteur tellement pluriforme qu'est Simone Veil, Simone Veil écrivain, Simone Veil philosophe. Vous, comment est-ce que vous la présenteriez en quelques mots ?
Je dirais que je la présenterais comme une philosophe intransigeante. Intransigeante dans la mesure où c'est quelqu'un qui a été assez radical dans son parcours. C'est quelqu'un qui avait des idées non seulement généreuses, non seulement nobles, mais qui les a mis en application. Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais qui les a mis en application et qui en a tiré toutes les conséquences les plus ultimes et terribles, puisqu'elle est morte assez jeune, à 34 ans, sans doute de faim, de privation, pour vivre le sort des plus démunis. Donc moi, l'image qui me vient, c'est vraiment quelqu'un qui a vécu dans sa chair ses idées et qui a fait preuve d'une rectitude et d'une constance tout au long de sa courte vie.
Philosophe exigeante, philosophe engagée, philosophe aussi de l'humanisme, de la liberté. J'ai vu que vous aviez fait une conférence sur Simone Veil et Camus l'année dernière.
Oui, tout à fait, tout à fait. Disons que d'ailleurs, c'est par Albert Camus que j'ai découvert Simone Veil. Les deux avaient en effet la liberté chevillée au corps, vous avez tout à fait raison. Je dirais que c'est une liberté d'autant plus exigeante chez Veil que c'est quelqu'un d'assez anticonformiste, hein, par son parcours. Bon, déjà, elle a un parcours de philosophe brillante, à une époque où les femmes étaient relativement peu représentées en philosophie, qui avait également un parcours assez iconoclaste, puisque son professeur de philosophie, Henri IV Alain, était un professeur lui-même assez anti-académique, je dirais assez original. Et puis c'est une philosophe qui s'est investie dans des mouvements anarchistes, des mouvements syndicalistes, dans une époque qui était une époque en proie au totalitarisme et à l'intolérance. Donc c'est quelqu'un qui, par son parcours de vie, montre une forme de liberté, une forme d'audace qui n'est pas sans impressionner.
Je vois aussi une autre ressemblance entre Simone Veil et Albert Camus, c'est que les deux sont à cheval entre la littérature, la philosophie, sur la frontière d'ailleurs floue entre les deux, et avec un souci du style, avec un souci du lecteur aussi. Est-ce que ça influence la pensée de Simone Veil? Est-ce que ça joue aussi dans son engagement?
En effet, la prose de Simone Veil est magnifique. Après, elle n'a pas, à proprement parler, écrit de littérature. Elle a eu un projet de pièce théâtrale, mais elle n'a pas, en tant que telle, sacrifié à la littérature comme l'a fait Camus. Je dirais que là où on sent vraiment une âme, et on sent une âme même tourmentée dans son écriture, une forme de lyrisme, c'est sans doute par les épreuves qu'a vécues Simone Veil et qui la rapproche d'Albert Camus. Tous deux avaient un père mort à la guerre, tous deux ont connu la maladie, ont connu la tuberculose, qui l'a emporté dans le cas de Veil, pas dans le cas de Camus. Tous deux ont connu aussi l'expérience ouvrière. Alors Camus l'a connu, si j'ose dire, par sa naissance, puisqu'il venait d'un milieu très modeste. Pour Veil, c'est pas le cas, elle s'est forcée à faire ce qu'on appelait à l'époque de l'observation ouvrière. Sans doute on pourrait multiplier les ressemblances. C'est une tentation chrétienne chez Camus et beaucoup plus prononcée chez Veil, une pensée de gauche aussi chez les deux penseurs. Donc je dirais qu'il y a beaucoup en effet de passerelles entre les deux philosophes, et c'est sans doute pour cela qu'on voit une forme de lyrisme, une forme de philosophie de l'amour, une philosophie même d'amour non seulement de l'être humain, du prochain, mais aussi d'amour de la nature, et qui se ressent dans cette prose, qui est une prose, je dirais, qui cherche à frapper juste au cœur du lecteur.
Et est-ce que elle vous a frappé au cœur? Est-ce que Simone Veil est une inspiration pour vous dans votre parcours philosophique, dans votre vie?
Je dirais que c'est quelqu'un qui m'a impressionné, qui continue de m'impressionner, comme je vous le disais tout à l'heure, par son intransigeance. C'est une sorte de modèle, ça c'est certain, et je pense que personne ne peut rester indifférent à cela. Après, je suis plus du côté de Camus que du côté de Veil. Je vais essayer de m'en justifier ou de m'en expliquer. C'est parce que chez Camus, je dirais qu'il y a une forme de mesure, il y a une forme de retenue dans la générosité, ou en tout cas, il y a une forme de prise de conscience ou de prise en considération aussi de l'individualisme qu'il n'y a pas chez Veil, où on a vraiment un esprit de sacrifice qui confine parfois au martyr. Et même si voilà, on est tous plus ou moins taraudés par la question morale, je dirais que chez elle, il y a une forme de goût du sacrifice dont, voilà, dont je cherche, je dirais, sinon à m'éloigner, du moins à garder une distance raisonnable.
Et est-ce que vous diriez qu'elle a un héritage aujourd'hui qui, aujourd'hui, dans le milieu philosophique, oserait encore faire de l'observation ouvrière ou s'engager, se sacrifier au point où l'a fait Simone Veil ?
Alors, sans doute pas jusqu'à ces conséquences-là, puisqu'au fond, ce thème voilà, de l'ouvriérisme, en fait, on le trouve jusque dans les années 70, mais pour des raisons idéologiques, il est un peu passé de mode. Mais je dirais que la thématique qui résonne de manière contemporaine chez Veil, ce serait celle de l'enracinement. C'est-à-dire que Simone Veil est donc l'autrice d'un ouvrage qui s'appelle L'enracinement, qui... rappelle, je dirais, la nécessité pour l'être humain de s'intégrer dans une sorte de cosmos ou dans une sorte de tout organisé qui est la société et qui est aussi la nature. Et je dirais que notre époque est caractérisée par plusieurs maux, dont celui, je dirais, de l'atomisme hein, ou de l'individualisme dévoyé, d'une forme de solitude qui frappe nos sociétés modernes. Et... d'ailleurs, nos époques notre époque s'en ressent tellement que le thème de l'écologie, d'un retour à la nature, d'un retour à des communautés peut-être plus vivantes et plus resserrées, apparaît de plus en plus. Et en cela, la pensée de Veil me semble résonner avec cette nécessité-là.
Donc il faudrait quelque part réactualiser Simone Veil à l'heure des réseaux sociaux, de l'ultra-atomisation, ultra-individualisation des opinions.
Oui, tout à fait, tout à fait. Là, vous parlez des réseaux sociaux. Non seulement un des mots des réseaux sociaux, c'est voilà, l'atomisme, l'individualisation, mais c'est aussi l'absence du visage de l'autre, c'est aussi l'anonymat. C'est aussi la possibilité de critiquer autrui sans prendre de risques. Or, Simone Veil, c'est non seulement celle qui a pris des risques, c'est-à-dire que si elle a mené des combats, elle les a menés en première personne, de sa propre personne. C'est quelqu'un, par exemple, qui s'est engagé dans la guerre d'Espagne, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans la résistance. L'autre enjeu ou l'autre problème des réseaux sociaux, je dirais, c'est qu'on n'a pas accès au visage de l'autre. On n'a pas accès à l'autre dans un échange concret. Donc non seulement on ne prend pas de risque, mais on n'a pas accès à toute la faiblesse de l'autre ou à toute l'humanité de l'autre. Humanité et faiblesse qui sont au cœur du christianisme et de la pensée de Simone Veil.
D'ailleurs, tout est dans le titre. Sur les réseaux sociaux, on se mobilise, mais on ne s'engage pas.
Tout à fait.
Quel est le livre que vous recommanderiez à quelqu'un qui voudrait découvrir l'œuvre de Simone Veil ?
Je dirais, de manière un peu contre-intuitive, je dirais quand même L'enracinement. Je dis contre-intuitive parce qu'il est tout de même assez long et assez touffu. Mais je pense qu'il n'est pas confus et je pense que c'est peut-être celui qui résonne le plus avec notre époque. Notamment avec cette nécessité actuelle de sortir voilà, de cette forme d'atomisme, de solitude et d'oubli de la nature, qui est voilà, l'un des mâles de notre siècle. Et je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour montrer l'actualité et la jeunesse de la pensée de Veil.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure ?
Peut-être... peut-être en plus de lire Simone Veil, peut-être aussi de regarder certaines images d'elle. Moi, ce qui me marque dans les photos de Simone Veil, c'est une vraie joie de vivre, un vrai sourire, une jeunesse due à sa mort assez jeune. Et je dirais que cette joie de vivre, elle est solidaire d'une proximité avec les pauvres, avec les démunis, d'une forme de charité. Et c'est assez beau de voir cette abnégation morale conjuguée avec une félicité.
Oui, je vois particulièrement sa photo de classe à Henri IV, où on la voit la seule fille au milieu de tous les, oui. Tous les garçons en costume trois pièces, où où on la voit, cette félicité que vous mentionnez. Alors, merci beaucoup, docteur. Merci, Ossine. Merci pour ce témoignage de lecture sur Simone Veil. J'espère qu'il pourra inspirer d'autres lecteurs, donc avec une recommandation de commencer par l'enracinement, d'oser tout de suite aborder les grands textes, parce que c'est un texte qui est tout à fait accessible et qui est clair, à la fois dans la pensée et dans l'expression. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci et très bonne lecture à vous.